A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
En sol majeur reçoit aujourd'hui un homme pressé, un comédien, metteur en scène d'une quarantaine d'années, qui régulièrement franchit le gué entre l'Algérie et la France. Kherdine Larjam, né à Oran, tout près de cette décennie noire qui assassinait ses intellectuels, et vivant en partie dans cette France rattrapée elle aussi par le terrorisme. Donc Kherdine Larjam est un homme de théâtre pressé de monter des spectacles généreux et urgents. Artiste en résidence au théâtre de l'Aquarium et au théâtre Jean Villard de Vitry-sur-Seine près de Paris, avec sa compagnie El Ajouad, il nous interpelle en ce moment avec une comédie financière rocambolesque de Victor Hugo, intitulée 1000 francs de récompense et actuellement en tournée en France. Bonjour et malhaba Kherdine Larjam.
Bonjour.
Alors, est-ce que c'est une impression ou vous avez l'air d'être vraiment pressé?
Oui, c'est pas question, je suis pressé. Je trouve que une minute qui fait 60 secondes, c'est trop court. C'est pour ça, peut-être que je rattrape le temps parce que j'ai grandi dans cette décennie noire. J'ai l'impression qu'on m'a confisqué 10 ans de ma vie. Peut-être que j'essaie de les rattraper.
Alors à cet homme pressé, je vais demander de se retourner quand même un peu sur une certaine année, l'année 82, et sur une pelouse. Dans ce fameux tête-à-tête inoubliable, Algérie-Allemagne.
T comme théâtre de l'enfance.
Kherdine Larjam, le premier théâtre de l'enfance, c'est peut-être cette victoire de l'Algérie sur l'Allemagne qui s'est soldée par 2-1 pour l'Algérie. Est-ce que la famille Larjam était devant son petit poste de télé cette année-là?
Je pense que tous les Algériens étaient devant leur poste de télé à ce moment-là. Après, c'est vrai que quand on parle de ce match-là, moi, il ne m'évoque pas que le foot, quoi. Et en fait, je le garde en souvenir parce que c'est la première fois que j'ai vu mes parents s'embrasser. Et la seule fois.
Un choc parce que, tout ce qui est intimité, tendresse, c'est des choses qu'on garde pudiquement.
En fait, il ne l'a pas simplement embrassé, il l'a embrassé goulûment. Donc, il a complètement oublié qu'on était là. Donc c'était quand même un truc énorme pour moi et mon frère.
Vous voulez dire qu'il lui a roulé un patin?
Plus que ça même. Donc c'était un truc hallucinant et ils nous ont complètement oubliés. Mais je pourrais dire que c'est la seule fois, donc c'est un peu dommage.
Famille traditionnelle dans laquelle vous êtes né, vous diriez?
Je dirais pas traditionnelle, je dirais qui se bat contre les traditions sans vouloir s'en séparer.
Dans la famille, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on acceptait? Qu'est-ce qu'on refusait?
En fait, ma mère, c'était une femme très très moderne. C'était une prof de français, qui aimait les grands auteurs, qui nous faisait découvrir ces choses-là, mais qui quand même était une bonne femme au foyer. Donc ce paradoxe, je le découvre aujourd'hui avec l'âge.
Vous êtes né en 76, donc à Oran, au nord-ouest de l'Algérie, Kherdine. Est-ce que c'est sur les écrans de la télévision nationale algérienne que vous découvrez le théâtre algérien?
En fait, le théâtre algérien, je vais le découvrir d'une manière un peu brutale. D'ailleurs, c'est assez particulier parce que ça fait quand même presque jour pour jour 14 ans que Alula a été assassiné.
Donc le grand dramaturge Abdelkader Alula.
Voilà, qui a été assassiné. Il a reçu 2 balles dans la tête le 10 mars 1994. Et à ce moment-là, moi, je suis en train de réviser mes cours avec un copain dans un quartier populaire et je ne vais pas pouvoir rentrer chez moi le soir, c'était le ramadan. Et je vais appeler ma mère pour lui dire « Maman, je ne peux pas rentrer ce soir, tout le quartier est bouclé. Apparemment, il y a un homme de théâtre qui vient d'être assassiné. » Et c'est comme ça que je vais découvrir le théâtre.
Alors j'aimerais bien qu'avec les auditeurs dans Sol Majeur, on partage la voix de Alula. Alors il faut l'imaginer, il a une tête toute ronde, il a des cheveux frisés, des moustaches et on va l'écouter dans un extrait de...
Humq Salim.
C'est donc l'adaptation du journal d'un fou de Gogol.
سمعوا لي واحد الوقت من قوة الحماس اللي كان فيها رشقت الشوكة على الطاولة حيدها للحارس وقال لي في المستقبل تاكل بصباعتيك، فهمنا؟ بعد الفطور لما شديني الحارس تمرت لهم تكلم لهم وقت العشاء على المسابقة وعلى اللهفة اللي في البيروقراطيين وعلى ما يسمى الشيتا وعلى شرني العساس.
La voix du dramaturge algérien Abdelkader Alula dans votre en sol majeur, Khaledin Larjam. On est bien sur RFI. Alors d'abord, il faudrait peut-être juste un tout petit peu traduire ce passage pour les non-arabophones.
Humq Salim, c'est un très beau titre parce que l'adaptation est magnifique, ça veut dire la folie saine. Et là, l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est qu'on est à quelques années de l'indépendance de l'Algérie, c'est le premier monologue du répertoire algérien et il va s'attaquer à la bureaucratie. Il s'imagine comme étant le premier empereur, le premier roi de la bureaucratie et il décide de mettre des lois.
Texte marxisant, vous diriez ?
Je dirais pas marxisant, je dirais un texte qui défend des libertés, des droits. Parce que souvent, dès que des textes expriment des choses comme ça très fortement, tout de suite on dit c'est des textes de gauche ou des textes marxistes ou des textes communistes. Non, en fait, c'est juste des textes qui revendiquaient des droits.
Quand il est assassiné en 1994 par des islamistes, vous, Khaledin Larjam, vous avez 18 ans. Et vous diriez le désir malgré tout, malgré ce drame qui est en train de cibler les intellectuels et les artistes en Algérie, de faire l'artiste vous-même, de faire du théâtre ?
Je vais le faire en fait, pas par revendication, je vais le faire spontanément. Et j'ai 18 ans et je vais m'intéresser au théâtre de Alula. Je vais essayer de comprendre pourquoi on l'a assassiné. Et je me mets à lire ses pièces. Et tout d'un coup, je me rends compte que cet homme parlait de moi, parlait de ma vie, parlait de mon quotidien. Et du coup, c'est ça qui va m'intéresser. Et tout d'un coup, je vais avoir envie. En plus, à cette époque-là, je suis en train de faire des études de musique. Donc, je suis prédestiné à devenir chef d'orchestre dans une école supérieure de musique à Oran. Et tout d'un coup, je me rends compte que les notes de Mozart, les notes, parce que c'était une formation très classique, ne suffisaient pas et que les mots de Alula étaient un remède.
Et vous allez baptiser votre compagnie du nom d'une de ses pièces, Les Généreux, en arabe, ça donne ?
Al-Ajwad.
L'Algérie, vous n'allez pas la quitter, Khaledin, mais en 2003, c'est-à-dire au moment de l'année de l'Algérie en France, vous allez subir des pressions parce que vous êtes en train de monter un texte qui pose question, c'est Les Justes de Camus. Redites-nous la trame.
Les Justes, c'est l'histoire de 5 terroristes qui préparent un attentat et qui, à un moment donné, au moment où ils vont commettre l'attentat contre le tsar, c'est des anarchistes, et au moment où ils vont commettre l'attentat, un des terroristes va se rendre compte que dans la calèche du tsar, il y avait des enfants. Et la question est, est-ce qu'on doit tuer ou pas les innocents pour ces causes ? Et puis il y a toute une discussion, et puis l'attentat va avoir lieu malgré tout, et puis il y a une confrontation entre la femme, la duchesse, du duc d'ailleurs, c'est un duc, et celui qui l'a tué, elle vient en prison. Et du coup c'est toute la problématique de la deuxième partie de la pièce, du pardon. Et on est en plein milieu de la loi de la réconciliation en Algérie en 2005, et en fait, je ne l'ai pas fait exprès, mais la pièce a eu une résonance hallucinante avec cette loi du pardon, pour laquelle moi j'ai été contre, je suis pour la réconciliation, mais avec un travail comme on l'a fait en Afrique du Sud. En Algérie, on n'a rien fait de tout ça.
Vous parlez de ces islamistes qui revenaient à la vie civile et qu'on accueillait en pardonnant.
Et qu'on payait, qu'ils avaient même des primes et tout ça. Et du coup, la pièce, elle a une résonance et du coup, je vais avoir des pressions très très fortes, très 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 fortes.
Menacé de mort ?
On ne m'a pas menacé, moi, directement, on a menacé tout mon entourage.
Donc peut-être à partir de cette période-là, vous envisagez votre métier d'homme de théâtre entre les deux rives. En tout cas, on va se projeter maintenant loin d'Oran avec la pièce de Victor Hugo que vous mettez en scène en ce moment et qui s'intitule « 1000 francs de récompense ». C'est l'histoire de Cyprienne et sa famille qui vont être saisies de tous leurs biens par les huissiers. Leur seul échappatoire, ce serait d'accepter le marché d'un certain Rousseline, terrible banquier, qui veut bien les sauver à une condition, celle d'épouser la belle Cyprienne, sauf que Cyprienne en pince pour un autre. Extrait.
C'est une descente funèbre, ma fille. Arrête, ne va pas plus loin.
Ma mère, je l'aime.
Oh, mais moi aussi, je l'aimais.
Il m'aime.
Oh, il m'aimait.
Il est honnête.
Oh, il était sincère.
Il est trop pauvre encore pour que le mari...
mariage soit possible.
Oh, c'est ce qu'il me disait.
Il me l'a promis.
Il me l'avait juré.
Ma mère.
J'en suis libre. Que le passé revienne et se refasse l'avenir. C'est le tour de ma fille aujourd'hui.
Ma mère, ayez pitié de moi.
Et compassion de moi.
C'est comme côté court.
Ce sont les maîtres de la maison. J'oubliais que nous ne sommes plus chez nous. Un débiteur, c'est un esclave. Oh, tous les abaissements à la fois.
Côté jardin.
Enlevez ces meubles.
Monsieur l'huissier, pardon, mon père est là dans l'alcôve.
Ah, ça déménage, hein, dans 1000 francs de récompense version Khaldin Larjam. Alors avant de débrancher les guitares électriques, rappelez-nous rapidement à quel moment Victor Hugo écrit cette pièce.
Cette pièce, il va l'écrire, il est en exil, il part, il quitte la France. Napoléon III est arrivé au pouvoir, il va dans son exil et il regarde la France et il essaye de comprendre ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a fait que la révolution a échoué? Et tout d'un coup, il écrit ce manifeste contre la finance. En fait, il se rend compte que finalement, déjà, la finance était au pouvoir. Et moi, je reste persuadé qu'il a été visionnaire par rapport à la situation de la France à ce moment-là. Et puis, il va écrire, moi, pour moi, il écrit le premier scénario de cinéma. Parce qu'en fait, lui, qui était très soucieux des enchaînements, des comment les scènes se succèdent, dans celle-là, il se pose même pas de questions. La caméra arrive, l'action a déjà commencé.
Est-ce qu'il dit de la finance parle à nos années 2000, vous diriez?
En fait, aujourd'hui, les retours, déjà, on est en tournée en France, les retours, c'est que les gens, ils arrivent pas à me croire quand je leur dis que je n'ai pas réécrit. Par exemple, dans la pièce, le personnage du banquier véreux qui veut épouser la fille est un banquier qui a des ambitions politiques et il devient député.
Suivez mon regard.
Voilà, donc c'est hallucinant quand même à l'époque. Donc
on a une certaine Cyprienne avec sa mère un peu hystérique, peut-être veuve, le grand-père malade et ruiné, des créanciers, des huissiers, des banquiers, des guitares électriques qui se mettent tout à coup à hurler au moment où l'huissier vient saisir le piano avec cette réplique qui pourrait labelliser d'ailleurs votre spectacle, comme ça arraché au vol. Un débiteur, c'est un esclave. Et vous, Khaldin Larjam, vous en faites un manifeste rock de cette pièce. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce parti pris des guitares électriques, par exemple?
Il y a du rock, il y a du rap aussi. En fait, j'ai oublié Victor Hugo à un moment donné. Et aussi, je voulais aussi surtout parler à mes contemporains. Et je voulais aussi parler à une certaine jeunesse qui considère que Victor Hugo, c'est pas non seulement de son époque, mais non plus pas sa culture. Et j'avais envie aussi d'être ancré dans maintenant. Et comme c'est une musique que j'adore, et comme je considère que le rock, c'est une musique aussi de revendication, ça s'est fait naturellement.
Qu'est-ce qui se passe visuellement sur scène au moment de ces guitares électriques?
En fait, les huissiers, quand ils arrivent, ils ont des têtes de corbeaux. Et sur le décor, il est projeté des dessins d'hommes corbeaux et de corbeaux. Et du coup, on a une sorte de clip assez dark, assez noir, qui est sur scène pour raconter cette chose terrible que vit cette famille.
Ce qui vous intéresse, ce que vous avez envie de partager avec nos contemporains, comme vous dites, c'est ce rapport, évidemment, entre riches et pauvres. Et ce nœud qui vous intéresse en particulier, c'est cette histoire de fausse générosité du riche.
Tous, comme on est aujourd'hui dans une société où il est quasiment presque impossible de ne pas avoir un compte bancaire. Et tous, on est amenés tous à aller au moins une fois par an voir son conseiller à la banque. Et quand on rentre tous comme on est dans nos banques, on est surpris par la transparence. Parce que tout est en verre, tout est en plexi. On nous fait croire à la transparence. Et en fait, cette chose-là de la transparence, de la générosité, du sourire, et c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui est très très plaisant dans cette pièce.
Et que vous avez traduit comment scénographiquement?
Scénographiquement, tout est transparent au plateau. Et je voulais m'amuser aussi, hein, avec aussi ma culture arabo-musulmane, sur ce qu'on voit pas, ce qui est transparent, le voile, et pour dire que cette chose-là, c'est une chose humaine aussi. Et du coup, sur scène, il y a des panneaux transparents, juste avec un seul effet, un seul mouvement, on voit que tout ce qui était transparent, il suffit juste d'un petit geste, devient opaque.
En somme, Major, on va bien vous entendre, Khaldin Larjam, parce que je sais que vous êtes metteur en scène et acteur, dans un extrait de 1000 francs de récompense.
L'étrange chose que l'homme est comme c'est peu connu. On croit que je suis tout intérêt, je suis tout amour propre. Les idées reçues, les banalités courantes, les opinions toutes faites. Y a-t-il rien qui ressemble moins à la réalité? Moi, par exemple, me devine-t-on, me comprend-t-on? Me voit-on tel que je suis? Tas d'imbéciles que vous êtes! C'est vrai! On a coutume de dire des hommes d'argent et d'affaires, ce sont des gens impassibles, froids, uniquement occupés de bourses, de hausses et de baisses, de spéculations et de calculs, absorbés dans les chiffres, qu'aucune passion humaine n'émeut, qui n'ont rien là. Moi, tout m'émeut et j'ai quelque chose là, un gouffre. J'aime l'argent? Non, j'aime moi.
Est-ce que le scandale financier dans lequel notre planète a été plongée en 2008, c'est finalement la grande raison qui vous fait monter aujourd'hui 1000 francs de récompense?
Non, pas du tout. En fait, la pièce, je l'ai montée suite aux attentats de Charlie Hebdo. En fait, je suis dans un lycée le lendemain des attentats de Charlie Hebdo et puis je me retrouve dans un lycée en région parisienne où une partie des gamins ont refusé de faire la minute de silence. Et en discutant avec eux, j'ai réalisé que ces gamins-là, qui sont français, nés en France, dont les parents sont nés en France, peut-être les grands-parents ou les arrière-grands-parents sont venus du Maghreb, ne se reconnaissaient pas dans Victor Hugo, Voltaire. Quand on leur parlait de ces gens-là, c'était pas leur culture, c'était quelque chose d'étranger pour eux. Et parce que je me suis rendu compte qu'on ne leur a jamais dit que c'était leur culture. En fait, tout d'un coup, j'ai pris une gifle.
L'école n'a jamais dit aux enfants Victor Hugo.
Mais elle n'a jamais dit à Momo, à Samir, à ces gamins-là qui sont nés, etc. Ils ne l'ont pas compris. Ils ne l'ont pas saisi, ces gamins. Et tout d'un coup, je me suis dit, il faut absolument que je monte une pièce écrite par un auteur classique, Victor Hugo ou Voltaire. Et j'ai choisi Victor Hugo parce que voilà, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Et c'est pour cette raison que je me suis retrouvé avec une pièce de Victor Hugo.
Se poser, on a le choix nous aussi de se poser ou pas d'ailleurs, deux minutes dans la capitale du rail, c'est-à-dire chez vous à Oran, avec Khaled, qui n'est plus Cheb Khaled, qui est juste Khaled, et qui chante cette ville, Wahran, Wahran. Pourquoi vous avez choisi cette chanson, Khaledine?
Parce que je chiale à chaque fois que je l'entends.
Wahran, Wahran, رحت خسارة هجروا منك ناس اشتارة وهرن وهرن رحت خسارة هجروا منك ناس اشتارة قعدت في الغربة حيارة والغربة صعيبة وغدارة قعدت في الغربة حيارة والغربة صعيبة وغدارة
dans les bas-fonds d'Oran, dans un verre de thé aussi de Khaledine Larjam, à savourer dans 3 minutes.
A long way from home.
En sol majeur.
Khaledine Larjam parle souvent de sa gueule d'arabe, car la France lui rappelle souvent cette gueule d'arabe. Et en Algérie, Est-ce qu'on lui reproche sa tchatche de francophone? Peut-être une question en sol majeur à lui poser. Acteur, metteur en scène, directeur de la compagnie El Ajouad, c'est-à-dire Les Généreux, en hommage au dramaturge Abdelkader Alula, l'Arjam, citoyen franco-algérien, fait du théâtre d'une rive algérienne à l'autre, la rive française. Et c'est un théâtre qui évoque le monde, le capitalisme, le Moyen-Orient, la guerre d'Algérie. Mais, en homme pressé, il sait prendre le temps de revenir au répertoire classique arabe et français. Quoi, sa gueule? Qu'est-ce qu'elle a?
Zalika tiflo lazi kuntu atani marratan wajhan ghariban lam yakul shay'an
fi ayyati lahza tufakkir bi lughatin ukhra.
Dans mon pays, les tendres preuves du printemps et les oiseaux mal habillés sont préférés aux buts lointains.
À quel moment,
dans mon pays,
pensez-vous dans l'autre langue?
La vérité attend l'aurore à côté d'une bougie.
Je sais pas, en fait, je me pose pas la question. En fait, je jongle entre les deux langues, en fait. Il m'arrive de rêver en arabe, il m'arrive de rêver en français. Quand je suis né, quand je suis arrivé au monde, cette langue était là, en Algérie. Dans les noms des rues, dans les noms des places. C'est ma langue aussi, je l'ai trouvée. Quand je suis arrivé au monde, elle était là. En Algérie, donc je comprends pas quand on me dit que c'est pas ma langue. Elle était là avant moi. Et du coup, voilà, peut-être que je suis enfant de deux langues. Je suis le produit de l'école algérienne, hein, arabisante. Hein. Donc ça veut dire que c'est la rue qui m'a appris plus cette langue que l'école algérienne qui était censée faire de moi un arabophone.
Et vous bercez votre petit garçon jurassien dans quelle langue?
Je le berce en français et il me réclame l'arabe. C'est assez particulier, c'est quelque chose d'assez intime, hein. C'est-à-dire que j'y arrive pas. J'ai pas réussi très vite à lui parler en arabe. Aujourd'hui, il a 6 ans, mais il m'arrive, Waharan Waharan, c'est la chanson que
Oran,
je lui apprends,
Oran.
La chanson de Khaled, il la connaît. Il me l'a réclamé, c'est sa berceuse.
Mais au moment de transmettre, là, le papa que vous êtes a du mal à franchir la langue arabe, à la transmettre à son petit garçon jurassien.
Moi, je dirais plus qu'on n'a pas su me la transmettre aussi. Je parle arabe, hein, je parle couramment arabe, j'ai fait l'école arabe, je maîtrise. Mais la passion de cette langue, je pense que ce qui s'est passé en Algérie, la langue arabe, on a voulu l'imposer d'une manière très forte, au point qu'on l'a rejetée. Mais je pense, moi je dis souvent ça, en fait, j'aime la langue française parce que c'est la langue de la pensée. L'arabe, c'est une langue très riche. Je vais faire rapidement un petit cours. Pour dire je t'aime à ta mère, ta femme, ou ton ami, ou ton copain, t'as un mot. Par exemple, l'ashq, l'gharam. On peut pas dire à sa mère, mtgharam. L'gharam, c'est juste pour l'amoureuse. En français, pour dire je t'aime, il faut faire attention à quel adjectif on utilise, à de quelle manière on le dit. Donc on pense avant de dire les choses. Et je pense que c'est ça qui m'attire beaucoup dans la langue française.
Et puis de toute façon, vous avez choisi un partenaire amoureux, une partenaire amoureuse francophone.
Oui, parce que oui, oui. C'est la vie ça.
On va dire que c'est la vie. On va grâce à vous découvrir la figure d'un grand poète syrien, surnommé le poète de la femme et de la Houma. Car j'ai vu que sa poésie avait connu une notoriété incroyable après les défaites arabes successives face aux Israéliens. Il s'agit de Nizar al-Kabani, dont vous allez nous dire un poème dans les deux langues.
أحاول منذ الطفولة رسم بلاد تسمى مجازا بلاد العرب. J'essaye, depuis l'enfance, de dessiner ces pays qu'on appelle allégoriquement les pays des Arabes. بلاد تسامحني إن كسرت زجاج القمر وتشكرني إن كتبت قصيدة حب وتسمح لي أن أمارس فعل الهوى ككل العصافير فوق الشجر. Pays qui me pardonnerait si je brisais le verre de la lune, qui me remercierait si j'écrivais un poème d'amour et qui me permettrait d'exercer l'amour aussi librement que les moineaux sur les arbres. أحاول رسم بلاد تعلمني أن أكون على مستوى العشق كالفراش تحت الصيف عباءة حب وأعصر توبك عند هطول المطر. J'essaye de dessiner des pays qui m'apprendrait à toujours vivre au diapason de l'amour. Ainsi, j'étendrai pour toi l'été la cape de mon amour et je presserai ta robe l'hiver quand il se mettra à pleuvoir.
Pourquoi vous avez choisi ce poème de Nizar al-Kabani, Khaledine Larjam?
Parce que ce poème, quand je l'ai découvert, on est en plein milieu de ce qu'on a appelé les printemps arabes. Et là, j'ai lu que le début, et il annonce les révolutions. Il annonce ce qui va se passer voilà, en 2010-2011. Et j'ai halluciné alors que le poème, il l'a écrit en 78. Et là, c'est là où j'ai découvert, et je suis parti, j'ai fait un travail de recherche, que nous avons été sourds et qu'on n'a pas écouté nos poètes et nos écrivains qui ont prédit plein de choses, qui ont été visionnaires.
C'est quoi l'origine du mal ?
Dans les pays arabes ?
Mm-hmm.
C'est un croyant qui va vous le dire. C'est les religions. Et je dirais c'est la religion, mais c'est l'interprétation que font certains hommes de la religion. Je suis pratiquant, musulman, mais je vois tout le mal qu'on fait au nom de ma foi et de ma religion. À 18 ans, je suis en Algérie, on vit des gens qui nous tuent, qui essaient de décimer un peuple au nom de l'islam, alors qu'on est musulman depuis 1400 ans. Je pense que le mal, il est un peu beaucoup là.
C'est un beau voyage que vous venez de nous offrir, là, de passer d'une langue à l'autre, comme on dit. Vous qui jouez à la fois le répertoire algérien et le répertoire arabe, vous avez joué Kateb Yassine, Rachid Boudjedra, Naguib Mahfouz, côté arabe, mais vous avez joué aussi Shakespeare, Beckett, Jarry, et bien sûr Albert Camus, l'algérien. Est-ce que cette dimension bilingue change votre rapport au théâtre ?
Non, la langue n'est qu'un outil pour moi. Mais c'est vrai que la langue me permet de dialoguer avec les spectateurs. En Algérie, par exemple, quand je choisis Camus, quand je choisis Les Justes, au moment même on parle de ça, la langue française permet la distance. L'exemple que je donne, c'est souvent le sang qui coule dans nos veines. Quand je dis le sang à un francophone, un français, c'est assez terrible. Mais quand je dis blood en anglais, ça permet la distance. La langue de l'autre nous permet aussi d'avoir un peu de distance par rapport à sa propre histoire.
Ce qui n'est pas possible en arabe ?
En arabe ? C'est possible, mais c'est trop tôt parfois, on va dire, par rapport à certains sujets.
Pas possible de parler de l'islamisme aux Algériens ?
Si, on peut parler, on commence à peine. Et d'ailleurs, il suffit de regarder, hein, les auteurs, les écrivains, c'est toujours les francophones qui ouvrent le grand chantier.
Qu'est-ce qui empêche, on va pas dire les Arabes, parce que ça veut rien dire, mais en tout cas les Algériens que vous connaissez bien, d'entendre leur histoire et forcément la douleur de l'histoire.
J'adore cette chanson du slammer Abdelmalik. C'est pas moi, c'est les autres. C'est un hymne dans nos pays. C'est pas moi, c'est les autres.
C'est le complot.
Oui, et il faut qu'on arrête à un moment donné. Je pense qu'il y a la génération qui arrive maintenant qui commence à se remettre en question, qui pose les questions et qui dit oui, le fautif, c'est pas toujours l'autre. C'est pas toujours Hezbollah Faransa. Les Algériens me comprennent. Le parti de la France.
Est-ce que c'est une question de génération ?
C'est une question de génération, mais c'est aussi une question de transmission. Qu'est-ce qu'on veut transmettre ? Ma grand-mère, qui a 94 ans, qui est ma source d'inspiration, qui est toujours en vie, que Dieu la garde, elle me dit toujours, bon, t'as piqué les citrons du citronnier, tu as volé les citrons, mais s'il te plaît, laisse l'arbre tranquille. Laisse-le sain. Et le problème dans nos pays, c'est ça, c'est que je crains que l'arbre est menacé.
Entre deux,
les Algériens, beaucoup de jeunes Algériens rêvent d'une seule chose, c'est de partir. Mais vous ne partez pas, vous ne faites que revenir.
Si je peux me permettre, il faut qu'on arrête avec ce mythe. Parce que le mythe de tous les jeunes Algériens qui veulent partir, effectivement, mais en fait, ils veulent aller chercher, se nourrir, prendre des connaissances, découvrir le monde. Quand on a 20 ans, on a envie de découvrir le monde, tout simplement. Partir.
C'est pas seulement le goût de l'aventure qui pousse les jeunes à devenir haraga.
Oui. Oui, bien sûr. Mais moi, je suis certain de quelque chose. J'ai fait un projet, ça s'appelle haraga d'ailleurs. Je suis certain de quelque chose. Si on sait qu'on peut revenir sans problème et qu'on peut faire des allers-retours, je vous assure qu'ils passeraient leur temps comme je le fais. J'ai cette chance-là.
Mais oui, vous le dites au conditionnel, voilà, on est d'accord. Ouais. Haraga, brûleur de frontières, voilà. C'est pas un métier. Hein.
Voilà. Et se faire des allers-retours. Oui, il y a des jeunes Algériens qui ont envie de partir. Mais en fait, c'est qu'on oublie souvent, c'est qu'ils ne rêvent pas. Ils savent que l'Europe n'est plus un Eldorado avec les médias internes. Ils le savent. C'est qu'ils veulent fuir, quitter une condition. Voilà, à travers le théâtre, j'essaie aussi de faire en sorte que des jeunes viennent par le théâtre, par l'art, par des choses comme ça et qu'il leur permet de faire des allers-retours. Malgré moi, je suis quand même, vous savez, c'est malheureux de le dire, je suis le seul metteur en scène algérien. Vous imaginez, c'est énorme quand même.
Dans tout le pays, en Algérie, il n'y a qu'un metteur en scène, il s'appelle Kherdine Larjam.
Non, je suis le seul metteur en scène qui arrive à faire des projets tous les ans entre les deux rives, c'est-à-dire qui est reconnu dans les centres dramatiques français, les scènes nationales, parce que j'arrête pas de faire des allers-retours. Mais qui serait venu me chercher? Par exemple, aujourd'hui, je le dis au directeur de théâtre français, qu'est-ce qu'ils savent de ce qui se passe du théâtre en Algérie? Rien, aucune curiosité. Là, je fais un projet. On va présenter un projet le 3 avril au théâtre de Jean Villard. C'est un projet que j'ai rêvé entre 10 jeunes Algériens vivant en Algérie et 10 jeunes de Vitry-sur-Seine. Ça fait 2 ans qu'on bosse sur le projet, que ce n'est que hier qu'ils ont enfin eu leur visa pour venir. Et je le dis parce que beaucoup de gens se trompent, les visas, c'est le gouvernement français qui les délivre. Parce que même les gens du théâtre, ils ont été surpris quand ils m'ont dit « Oui, mais c'est le pouvoir algérien qui ne les laisse pas partir. » Je dis « Non, c'est l'ambassade française, le consulat français. »
Ça veut dire quoi, Larjam ?
Larjam ? Si vous tapez sur Google Larjam, vous risquez de tomber sur une ville qui s'appelle Larjam en Algérie. Larjam, c'est une grande tribu algérienne. Je suis en conflit avec ma famille paternelle, mais c'est pas grave, je vais en parler. Larjam, c'est une grande tribu qui a donné beaucoup de martyrs dans la guerre d'Algérie au point qu'il y a une ville qui porte le nom de ma famille. Par exemple, mon père, ils étaient 7 garçons. Mon père est resté le dernier rescapé, 6 frères qui sont morts pendant la guerre d'Algérie.
Un oncle torturé ?
Un oncle torturé dont j'ai hérité le prénom, qui s'appelle Kherdine, torturé d'une manière assez violente. D'ailleurs.
Un grand-père pupille dans l'armée française ?
Grand-père maternel. En fait, je vais grandir dans ce paradoxe hallucinant, comme beaucoup d'Algériens. Mon père, il me parlait de ses frères qui ont combattu, mais il me parlait aussi de son copain juif avec qui il faisait des blagues en sortant de l'école. Il cachait, il m'a montré l'arbre où il cachait leur cartable. Mais il me parlait aussi de la torture. Ma mère, son père qui est pupille, qui va aller jusqu'en Alsace pour libérer la France et qui rentre après la guerre et qui n'a même pas droit à une pension.
Donc, il est considéré comme harki ou pas en Algérie ?
Non. Non, c'est pas un harki parce que harki, on oublie quand même. Harki, c'est une sorte de pas grade, mais une catégorie dans l'armée, comme une section qu'on a créée à un moment donné dans l'histoire. Alors que mon grand-père, il était militaire professionnel, il était dans les bureaux à une époque, tout ça. Donc il a été élevé, d'ailleurs, il était orphelin. Et puis même s'il était harki, j'aurais été fier de mon grand-père.
En tout cas, au cours de votre histoire, il y a donc cette guerre d'Algérie que vous n'avez pas vécue, mais qui est là, peut-être comme un caillou dans la chaussure et de la France et de l'Algérie. Et en 2015, vous avez senti le besoin de solliciter Fabrice Melchiot, un grand auteur contemporain, pour vous écrire, du sur-mesure apparemment, un texte qui s'appelle « Pages en construction ». Est-ce que on peut le présenter comme une sorte de work in progress sur vous-même ?
Au départ, c'était pas la commande. En fait, en 2011, je vais rêver un projet. Je vais essayer de le résumer rapidement. On arrive en 2012 à la 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Avant, je n'ai jamais parlé de la guerre d'Algérie, jamais dans mes pièces. Mais comme je jouais en France des spectacles de Rachid Boujedra qui parlaient de l'intimité d'une femme, des sujets autres, mais les débats après duraient des heures et des heures sur la guerre d'Algérie. Et du coup, à un moment donné, arrivé en 2012, je me suis dit, allez, je vais mettre les pieds, nous en Algérie, on dit les pieds dans le plâtre. Et je me suis dit, allez, je vais mettre les pieds dans le plâtre, comme ça, ça sera bien coincé. Je vais attaquer ce sujet. Et j'ai rêvé un projet qui est en 2 volets. Premier volet, un auteur algérien vivant en Algérie à qui je vais voir et je lui dis la guerre d'Algérie. Et ensuite, un auteur français né en France, voilà. Donc je fais le premier volet avec un auteur algérien, Mustapha Benfodil. Et il m'écrit une fable qui raconte l'histoire de quelqu'un qui rejette l'histoire de la guerre d'Algérie. Et je vais aller voir Fabrice, parce que Fabrice Melchiot, je suis allé le voir parce que je me suis dit, au fond de moi, quel est l'auteur le plus français dans ton imaginaire de théâtre.
Qui est loin de cette histoire, qui ne la connaît pas.
Qui ne la connaît pas du tout, tout ça. Et je suis allé voir Fabrice Melchiot, et il a accepté au bout de plusieurs rendez-vous en me disant ok, j'accepte, mais à une seule condition, tu seras mon sujet. J'ai refusé au départ parce que je ne comprenais pas, je n'avais pas envie d'une pièce autobiographique, et ensuite il m'a écrit une lettre qui commence dans la pièce, et dans la lettre, j'ai compris.
Avant de vous écouter dans un court extrait, dites-nous où se trouve la ville de Sig en Algérie.
Sig, c'est à 45 km d'Oran. C'est dans les terres. Voilà.
On vous suit.
Mon père m'emmène sur une place de Sig. Je revois la place et mon père qui me dit « Regarde mon fils, je regarde Baba. Qu'est-ce que tu vois ? Une place, Baba, c'est ça. C'est une place. Sur cette place, j'ai vu l'armée française enfoncer une bouteille de verre dans l'anus de ton oncle jusqu'à ce qu'il en meure. Les entrailles ont bouilli. Cet oncle, il s'appelait Kherdin. C'est en hommage à cet oncle qu'on t'a appelé comme lui. Ah bon, Baba? Est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris. Est-ce que tu as bien compris, mon fils? Oui, Baba, qu'est-ce que tu as compris, mon fils? J'ai compris. Qu'est-ce que tu as compris? J'ai compris que j'ai le même prénom que l'oncle mort avec la bouteille dans les fesses. Et qui a fait ça, mon fils? Les Français, Baba. Les Français, mon fils. Soyez les bienvenus toujours. Je ne dis pas ça pour que vous sentiez coupable de quoi que ce soit. Ce n'est ici la faute de personne. C'est comme ça. C'est notre histoire.
Extrait en sol majeur de Page en construction de Fabrice Melchior à partir de votre parcours à vous, Kherdin Larjam. Merci pour ce moment en sol majeur. Dans cette histoire, on comprend que vous êtes un enfant de couple divorcé. C'est-à-dire que je parle du fameux divorce entre l'Algérie et la France. Mais vous avez monté cette pièce pour des raisons très françaises. Vous me disiez.
Oui, parce que j'ai eu un enfant qui s'appelle Noé. Et au moment où on a un enfant, on se pose la question de quoi lui transmettre. Quand Noé était dans le ventre de sa maman, j'ai décidé de prendre la nationalité française. Parce que j'appréhendais cette question qui est « Papa, est-ce que tu es français ?» Et j'ai envie que ce soit clair pour lui que sa mère et son père, voilà, la mère est algérienne ou le père français ou vice-versa, ouais. Qu'il est fait de ces deux choses-là. Comme beaucoup.
Dans cette pièce, vous souhaitez un peu, vous devenez une sorte de super-héros, amoureux du mot musulman, un mot, je cite, qui aime tout le monde, même les extrémistes, et même Marine Le Pen du Front National, vous souhaitez l'aimer dans cette pièce.
En fait, je lui fais une déclaration d'amour, parce qu'en fait, finalement, c'est celle qui parle le plus de l'islam. Mal, bien sûr, mais quand on regarde combien de fois elle dit le mot musulman, on a l'impression qu'elle adore ce mot. Et en fait, je lui fais une déclaration d'amour à un moment donné. Parce que qu'est-ce qui pourrait être pire qu'on puisse faire à Marine Le Pen? C'est de l'aimer. Qu'un musulman lui dise « Marine, je t'aime ». Mais le passage est très drôle. Hein. Mais le problème de la religion musulmane, aujourd'hui, quand vous dites à un musulman, quand vous lui dites que par rapport aux attentats, par rapport à ce qui se passe de terrible dans le monde, la première phrase qui vous sort, c'est « Non, ce ne sont pas des musulmans ». On pourrait dire que ce sont des musulmans errants, dans l'erreur.
Donc les campagnes « Not in my name », pas en mon nom, justement, vous êtes critique par rapport à ça?
Oui, parce qu'en fait, c'est la porte ouverte à tout. Voilà. Et puis surtout ce qui est... Vous savez, on parlait de Noé. Noé, il n'arrête pas de me dire, il a 6 ans, et j'arrête pas de le recorriger parce qu'il entend des choses. Il pense que l'islam musulman est une origine. Mais non, c'est une foi.
Il a 6 ans, mais il y a des adultes qui le pensent aussi. Hein.
Oui, mais c'est pas une origine, l'islam. Par exemple, je lui ai dit ça, il était dans la voiture, je lui ai dit, Noé, tu peux pas dire qu'il est d'origine musulmane. Il me dit, pourquoi? Et je lui ai dit, maman, elle est athée. Oui, on ne dit pas, maman, elle est d'origine athée. Et il a tout de suite compris.
Alors, c'est drôle parce que justement, il y a beaucoup de questions du prophète dans Page en construction. Et à un moment donné, il y a un petit dialogue comme ça, entre l'auteur et le metteur en scène, hein, d'après ce que je comprends.
Et toi, Oran, quand tu avais 15 ans, tu rêvais de quoi?
Comme mon fils, je rêvais d'être un super-héros. Mais je culpabilisais à mort.
Pourquoi?
Chez nous, le super-héros, c'est Mahomet.
Y a pas de super-héros arabe?
Genre, super Bougnoul.
Genre?
On n'a pas le droit, c'est Mahomet, je te dis. C'est lui, Batman.
Est-ce que ça veut dire que vous faites du théâtre, Kherdin Larjam, pour construire des héros?
Je me méfie un peu de la figure du héros. Il y a une phrase en Algérie, que j'ai grandi avec cette phrase et on la retrouve toujours dans tous les murs. Un seul héros, le peuple. C'est une phrase très socialiste.
Ah
très.
Oui,
mais elle est dangereuse. Elle tue le jeu.
Parce que c'est le peuple, c'est le collectif.
Oui, mais parce que le collectif, vous savez, quand vous êtes musulman, quand vous dites « Anna », on vous a élevé avec « A'oudou billah min qawlati Anna ». C'est-à-dire, vous demandez pardon à Dieu pour avoir dit « je ». Comme si le jeu était quelque chose de péché.
Donc vous revendiquez le jeu, vous musulman?
Ah oui, je le revendique, mais à mort.
Donc le théâtre vous sert à ça aussi?
Oui, le théâtre m'a permis vraiment de revendiquer mon jeu.
Aux deux sens du terme, donc.
Oui.
C'est une bataille, c'est-à-dire que sur le plateau, pour vous, là, il y a un enjeu existentiel, artistique, identitaire?
Oui, même en France, identitaire. J'aimerais bien qu'on ne parle pas en mon nom, et ni au nom de Noé. Si Noé a envie de dire quelque chose, il s'appelle Noé Larjam, il a la double culture. On l'écoute. Si on a envie de parler de ça, qu'on invite les gens concernés par le sujet et qui sont le sujet parfois même. Ce que j'aime beaucoup dans ce qu'il a fait, Fabrice, c'est qu'à un moment donné, je suis devenu son sujet, mais pour qu'il parle lui aussi. Parce que je vous raconte une anecdote, j'ai choisi l'auteur qui n'a aucun lien avec la France et j'ai été très surpris. On arrive à Oran, on est en train d'arriver à Oran.
Avec l'Algérie, vous voulez dire ?
Oui, avec l'Algérie, pardon. Et on arrive à Oran et Fabrice, il arrive à Oran, on est dans l'hôtel, il appelle son père pour lui dire je suis bien arrivé. Son père qui est inquiet, il dit ah super, tu peux appeler ta tante ? Il dit oh, je vais pas l'appeler. Appelle-la, dis-lui que tu es arrivé. Mais non, appelle-la. Mais pourquoi tu veux que je l'appelle ? Mais parce qu'elle a vécu à Oran, chose qu'il ignorait totalement. Donc voilà, on s'est raconté, je lui ai permis de parler, il m'a permis aussi son jeu, je l'ai aussi pris.
Sol majeur dans une rue de Beyrouth ou peut-être même d'Alger. Ibrahim Maalouf sur RFI avec sa barrette de shit pour vous servir. Khaledine Larjam, c'est le titre, hein, Hachiche. Est-ce que ça vous arrive de fumer du Maalouf ?
Du Maalouf ? Ah ouais, genre, 3 fois par jour. Parfois, pour faire rire mes copains, je leur fais 5 fois par jour et il n'y a pas de direction. Hein.
Sérieusement, vous aimez bien ce trompettiste ?
Ce qui est bluffant, c'est qu'il arrive à faire en sorte que la même musique soit entendue par 2 personnes, soit entendue par moi qui est arabe, tout ça, et je l'entends dans des sonorités arabes, et quelqu'un qui a grandi avec une oreille qu'on pourrait appeler occidentale, il l'entend d'une manière occidentale. Et moi, je lui dis, mais non, c'est arabe. Non, mais là, c'est un peu plus proche d'abstrait. Je dis, mais non. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il nous pousse à dialoguer.
On va fermer cet ensemble majeur, Khaledine, en ouvrant quelque chose qui s'appelle un inventaire sonore. Yel.
Pourquoi je fais du théâtre ? Eh bien, je me le suis souvent demandé. Et la seule réponse que j'ai pu me faire jusqu'à présent vous paraîtra sans doute d'une décourageante banalité. Tout simplement parce qu'une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux. Remarquez que cette réflexion, après tout, est moins banale qu'il y paraît. Le bonheur, après tout, est une activité originale aujourd'hui. La preuve est qu'on a tendance à se cacher pour l'exercer, à y voir une sorte de balai rose dont il faut s'excuser.
Marseillaise qui croise un muezzin, c'est forcément dans votre ensemble majeur, Khaledine Larjam.
Oui, parce que je suis fait des deux. La Marseillaise, c'est un truc assez bizarre. Mon amoureuse, elle n'arrête pas de me taper sur la tête, parce qu'en fait, je l'ai tout le temps dans la tête. Et d'ailleurs, elle est presque dans tous mes spectacles, inconsciemment.
Et l'hymne algérien aussi, ou pas ?
Qassaman, bin Nazilat il Mahirat.
Qassaman, vous ne l'avez pas demandé. Hein.
Parce que je pense que ça coule dans mon sang, donc voilà, le patriotisme. On l'a pris au biberon. Hein. Mais la Marseillaise, oui, Je trouve ce chant magnifique. Dans le 1000 francs de récompense, j'invite les spectateurs, les auditeurs à venir entendre. Il y a un passage où Victor Hugo, pour moi c'est Victor Hugo qui parle, qui commente les paroles exactes, ce que disent les mots, liberté chérie, il y a des choses qui sont sublimes.
Camus, le roi du texte pour vous ?
Non, Camus, en fait, on a deux passions, le foot et le théâtre. Et je trouve que cet homme-là rend le théâtre tellement concret quand il en parle, tellement simple, tellement évident, que oui, c'est le lieu où je suis heureux. Quand j'ai commencé le théâtre, j'ai complètement oublié que je m'appelais Herdin. C'est le lieu où on oublie aussi ce qu'on est, on est heureux, on est joyeux, on est comme au foot. Quand on joue à un match, le foot des quartiers, le foot du soir, on partage le même sandwich, on boit tous dans la même bouteille d'eau. Voilà, c'est comme le théâtre quand il y a une bouteille d'eau, on se la partage, hein. Voilà, c'est, on boit tous dans la même bouteille, parfois on se refile les mêmes microbes.
En sol majeur, @rfi.fr.
1000 francs de récompense, c'est du Victor Hugo, mis en scène par du Herdin Larjam, à partir du 22 mars au théâtre de l'Aquarium à la Cartoucherie de Vincennes, et puis en tournée en France. On vous dit bon vent.
Merci, je prends.
En sol majeur avec Facebook, Twitter, et puis pour nous retrouver en podcast sur notre application Pure Radio, et bien sûr derrière votre poste, chaque samedi et chaque dimanche à 14h10, temps universel, Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve demain avec le poète syrien Omar Youssef Souleyman. À demain.